Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aussi à tous nos abonnés de notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, abonnez-vous. Voici les titres de l'actualité de cette revue de presse donc du 14 septembre 2021. Alors, nous allons commencer par le mode avion de nos téléphone. Alors oui, c'est la rentrée, vous allez me dire que je ne suis pas tout à fait, on va dire, à chaud dans l'actualité. On est tous connectés, on est à droite, à gauche, les to-do list se remplissent à très grande vitesse. Eh bien moi, je vais vous aider avec le père Jean-Baptiste Bienvenu, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, à passer en mode avion pour gagner en efficacité et en liberté. Cet article figure dans l'Invisible numéro 128. Je continuerai avec le rôle des grands-parents. Rôle discret, délicat, envahissant. Comment les grands-parents peuvent-ils compléter l'éducation des enfants? Je vous lirai l'article de Marc et Marie Von Pierre, fondateurs du parcours Croître et progresser ensemble, article qu'ils ont donné à L'Homme Nouveau, numéro 1742. En culture chrétienne, on va parler de trois livres. Le premier, « Donner mon doudou à Jésus ». Ah oui, alors ça fait sourire, c'est mignon comme tout. Il s'agit d'un livre, sorte de boîte à idées, pour éveiller les tout-petits à la foi. Un livre du père Jean-Paul Caz, paru aux éditions Salvator. Je continuerai ensuite avec le livre « Réussir à l'école » de Cécile Dalle, paru aux éditions MAM. Et enfin, « Être là, une lumière au cœur de la souffrance » de Elisabeth de Courrèges, donc jeune ergothérapeute, livre paru aux éditions MAM. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Commençons cette revue de presse donc avec un thème qui peut paraître complètement rétro en cette période de rentrée, donc à savoir le mode avion pour nos téléphones. Donc plus largement, en gros, se libérer de nos écrans, de tous ces écrans qui nous envahissent. Comment faire alors pour bien vivre avec tous ces écrans? Dans un environnement virtuel omniprésent, il est possible pourtant de sortir la tête des écrans. Le code d'accès vers cette liberté intérieure passe par une petite reprise en main, l'acquisition d'une montre et d'un réveil. Tout cela a été testé pour vous. Voici donc les conseils du père Jean-Baptiste Bienvenu, conseils qu'il a donnés à l'Invisible numéro 128. C'est devenu un classique en confession. Mon père, j'ai passé trop de temps sur les écrans. Au lit, au télétravail, en voiture, dans la poche ou à table, ils sont partout. Et il serait illusoire de vouloir faire sans. Alors comment sortir la tête des écrans? D'abord, il vous faut une montre. Choisir de dissocier les fonctionnalités, c'est faire un premier pas de côté. On s'affranchit du coup d'œil permanent sur son écran de veille pour lire l'heure, mais aussi le fil d'actualité et les notifications qui sont autant d'armes de déconcentration massive. Le temps de l'âme et le temps des écrans ne sont pas compatibles. Allez dans l'outil d'analyse de votre temps d'écran. Quelle est l'application qui vous prend le plus de temps? Le temps que vous y passez est-il de qualité? Ou bien est-ce du scrolling qui confine à l'addiction? Gratification émotionnelle proche de l'addiction, la notification ou le like grignote le lent travail d'unification psychologique de la personne. Ensuite, de l'espace. Quelle pièce de votre vie échappe aux écrans? Offrez-vous le luxe d'un lieu de déconnexion. Interdisez aux écrans de pénétrer dans votre chambre. La qualité de votre sommeil, de votre intimité conjugale, de votre détente et de votre prière est à ce prix. Concevez votre chambre comme un sanctuaire. Vous me direz que vous servez de votre téléphone comme un réveil. C'est aussi mon cas. Et je me suis racheté un réveil. Quant aux autres pièces de la maison, donnez-vous les moyens d'y rebrancher votre concentration. Savez-vous qu'une boîte est chargée de réceptionner les smartphones des ministres de la République avant leur conseil hebdomadaire autour du président? L'Élysée a su donner leur juste place aux écrans. Ils ne sont pas partout. Dans bien des situations de notre vie, cet exemple pourrait nous inspirer. Pourquoi ne pas avoir une boîte ou un panier à la maison pour y confiner les écrans lors des moments de partage et de convivialité? Pourquoi ne pas imaginer que tous les téléphones soient rechargés au même endroit, dans le séjour ou dans la cuisine? Cela pourrait être le rituel du soir, une manière de savoir que tout le monde joue le jeu. De même, quand nous sommes au travail, attelés à une tâche qui exige de la concentration et surtout une certaine endurance, où rangeons-nous notre smartphone? Il paraît que la concentration varie du simple au double si le téléphone est enfermé dans un tiroir plutôt que d'être sur le bureau où nous travaillons, et du simple au triple si le téléphone est déposé dans une autre pièce. Soignez vos moments de qualité sans écran. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres incarnés. Identifiez les activités qui vous ressourcent pour de vrai. Inscrivez plusieurs événements de ce type chaque semaine dans votre agenda. Ces activités régénèrent votre être. Ce sont tous les temps consacrés à la donation mutuelle, dans l'amitié, dans la famille, dans le couple. Parler avec son conjoint, jouer avec ses enfants. Ce sont les temps consacrés à la musique, à la littérature, à la sculpture et tant d'autres activités manuelles. Vous vous souvenez que dans les revues de presse précédentes, avant l'été, je vous ai parlé du côté artistique qui sommeillait en chacun de nous et que les écrans ont tué. Ce sont les temps de réflexion personnelle, de prière, de méditation et d'intériorité. Ce sont tous les moments qui plongent notre être dans la contemplation du beau, du bien, du vrai et qui réalisent en nous une œuvre d'unification dont nous savons qu'elle converge avec le sens profond de notre existence. Nous vivons en vue de ces heures qui nous font expérimenter la plénitude. Notre vie n'a de sens que si ces événements arrivent régulièrement dans notre vie. Il n'est rien de plus fragile et de plus vulnérable. Il n'est rien que nous ne devions protéger avec plus de détermination, car il n'est rien de moins compatible avec nos écrans et leur rythme effréné. Nous ne sommes pas des machines, nous devons débrancher, écrivait Arianna Huffington, la fondatrice du site d'actualité The Huffington Post. Pour mettre en application ce bon conseil, suivons Jésus enraciné dans le temps, l'espace et les relations. Donc, trois paramètres à activer dans notre vie. Le temps, l'espace et les relations. Voici donc cinq clés pour commencer à se libérer des écrans. On va faire ça en douceur. Le premier, se tester. Auto-évalue, par exemple, auto-évalue-toi. La place des écrans dans ta vie. À quel moment es-tu sur les écrans? Le matin au réveil? Pendant les trajets? Au travail, au retour du travail, après le dîner, au moment de t'endormir, le week-end? Quand tu t'ennuies? Deuxième clé, passe au noir et blanc. Pour reprendre la main, mets ton écran en noir et blanc pendant une semaine ou deux. Tu vas voir, c'est pénible, mais ça permet de démasquer l'imposture. Pour cela, sur iPhone, va dans Réglages, Accessibilité, Filtre de couleur. Sur Android, la procédure est un peu plus compliquée, mais des tutoriels disponibles sur Internet expliquent cela très bien. Donc, de passer au noir et blanc, deuxième clé. La troisième, de regarder encore une fois le film Matrix. Bon, vous voyez, c'est pas si déplaisant que ça. C'est une métaphore de la culture transhumaniste ambiante. Neo et Cypher, les deux héros antagonistes du film, nous encouragent à faire l'effort de sortir de l'ignorance et de la naïveté au risque de l'inconfort, mais aussi avec la récompense de la liberté. Ça vaut le coup de tenter, je crois. Quatrième clé, offre-toi, offrez-vous un lieu hors réseau. Tout le monde est capable de ça. Fais absolument sortir téléphone et écran de ta chambre. Offre-toi un lieu où personne de l'extérieur ne peut te déranger. Offre-toi le luxe d'un lieu complètement déconnecté. Et cinquième clé, prendre le temps de bien manger. Quel rapport? Un risque nous guette quand nos téléphones font partie du menu. Donc choisis donc de faire de tes repas un moment déconnecté pour être mieux connecté à tes sensations gustatives et aux autres. Et pour terminer, voici le court témoignage personnel du père Jean-Baptiste. Je vous partage un exemple de ma vie de prêtre. Quand je me rends chez quelqu'un, par exemple pour un déjeuner dans une famille ou même quand j'arrive à l'hôpital pour donner le sacrement des malades, je laisse presque toujours mon téléphone dans la boîte à gants de ma voiture. Les conséquences de ce choix concret. Plus de dérangements incongrus, plus d'interruptions qui empêchent d'écouter jusqu'au bout, et surtout, plus plus de tentation de zapper discrètement si la conversation de table s'enlise ou que la rencontre devient franchement ennuyeuse. De même, quand je vais prier, je laisse toujours mon téléphone dans mon bureau. Je prends ma Bible et mon bréviaire plutôt que d'utiliser les applications correspondantes. Et ma prière n'est pas parasitée. Nous sommes appelés à être des saints au quotidien, pas des héros antiques à la volonté de fer. Alors pourquoi nous encombrer de tensions et de soucis que nous pourrions régler d'un coup par le confinement du téléphone au bon endroit? Parce que oui, en cette rentrée, c'est le téléphone que nous allons confiner et tous nos écrans. Alors vive la liberté! Voilà, chers auditeurs, si vous êtes intéressés pour relire cet article, je vous invite à aller sur le site de l'Invisible, numéro 128, Passer en mode avion, du Père Jean-Baptiste. Bienvenue. Nous allons maintenant rentrer au cœur des familles avec le rôle des grands-parents. Car le rôle des grands-parents n'est pas calqué sur celui des parents. Plus détachés de l'éducation directe des enfants, ils peuvent et doivent compléter celle-ci de façon positive, en manifestant une affection inconditionnelle. Voici donc les conseils de Marc et Marie-Vonne Pierre, fondateurs donc du parcours Croître et Progresser Ensemble, article qu'ils ont donné à L'Homme Nouveau numéro 1742. Lorsque j'étais petite fille, je me souviens très bien de mes cousins germains qui avaient en commun avec nous une grand-mère appelée Mémé Marie et qui appelait leur autre grand-mère Mémé qui gronde. Cela me consternait de penser que cela pouvait exister. Une grand-mère nommée Mémé qui gronde par ses propres petits-enfants, donc mes cousins. Est-ce que le fait de gronder peut rentrer dans les attributions et dans le rôle des grands-parents? Ces derniers ne doivent-ils pas montrer un amour inconditionnel, eux qui ne sont pas au premier poste et qui ne sont pas les premiers éducateurs de leurs petits-enfants? Combien même ces anciens trouveraient-ils l'éducation donnée par leurs enfants, donc les jeunes parents, trop laxiste? Leurs réflexions désagréables ne pourront compenser cette éducation éventuellement défectueuse reçue par leurs petits-enfants. Que faire alors? À l'évidence, montrer leur amour indéfectible à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ce n'est que dans ce contexte qu'ils pourront alors avoir une influence positive. De fait, la connaissance et la pratique des langages d'amour, donc de Gary Chapman, les fameux langages de l'amour, constituent la condition sine qua non pour remplir ce rôle. Paroles valorisantes, moments de qualité, services rendus, cadeaux et le toucher. Les grands-parents ont tout intérêt à découvrir le langage d'amour de leurs enfants et des valeurs ajoutées, donc les belles-filles, les gendres, et de chacun de leurs petits-enfants. Ils posséderont alors la clé pour ouvrir le cœur de l'autre, petite clé sans laquelle nul message ne passe ni ne peut être reçu. Développons un peu chacune de ces manières de témoigner notre affection et notre amour. Alors, premièrement, les paroles valorisantes consistent à dire à nos enfants, à leurs conjoints, à nos petits-enfants, des paroles qui disent du bien d'eux, qui soulignent ce qui est réussi et ce qui est vertueux. Pas de flagornerie ni de flatterie, non. Il s'agit juste d'insister sur ce qui est bien en vérité, alors que les esprits chagrins ne savent parler que de ce qui est plutôt négatif. Lorsqu'une erreur a été commise, il est toujours possible d'expliquer qu'elle constitue une merveilleuse opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit d'une tournure d'esprit à prendre et qui permet de voir le bon côté des choses. Les moments de qualité consistent, eux, à passer du temps à écouter l'autre avec patience et bienveillance, en s'assurant que l'on a bien compris ce qu'il voulait nous dire, sans l'interrompre pour placer ses propres arguments. Une manière d'être parfois très difficile pour les grands-parents bavards et habitués à avoir le dernier mot en conversation. Alors, qu'entend-on ensuite par service rendu? Tout simplement que les grands-parents doivent trouver des moments pour être disponibles sans toutefois se croire obligés de tout accepter. Il n'est pas normal qu'ils deviennent les esclaves de leurs enfants et de leurs petits-enfants, au risque sinon de s'épuiser dans le temps et de générer beaucoup de conflits inutiles. Le quatrième langage d'amour consiste à savoir embrasser, cajoler, toutefois sans excès et dans une juste mesure. Attention à ce que les parents n'en prennent pas ombrage. Donc ça, il s'agissait du toucher. Offrir des cadeaux est un bon moyen de rendre service aux jeunes parents, peut-être moins fortunés, et qui permet de témoigner son affection à tous. Mais là aussi, il faut une juste mesure et s'enquérir auprès des parents des cadeaux qui seront utiles et appréciés. À propos de chacun de ces langages d'amour, n'hésitons pas à lire et à relire donc les deux ouvrages de Gary Chapman, Les langages de l'amour et Les langages d'amour des enfants. Si les grands-parents savent se faire apprécier, ils pourront apporter beaucoup à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et réciproquement, si les jeunes parents montrent aux grands-parents combien ils sont précieux et aimés, ils seront imités par leurs propres enfants et un bel esprit de famille régnera pour le plus grand bonheur de tous. C'est à la portée de tout le monde. C'était les conseils de Marc et Marie-Yvonne Pierre, fondateurs de Croître et Progresser Ensemble, donc article qu'ils ont donné à L'Homme Nouveau, numéro 1742. Nous passons maintenant à la culture chrétienne avec le premier ouvrage, donc un ouvrage paru aux éditions Salvator, intitulé « Donner mon doudou à Jésus » du père Jean-Paul Cazes. Alors un titre qui peut paraître niais, voilà, un petit peu naïf, mais en réalité il s'agit d'un livre un peu constitué comme une boîte à idées pour éveiller les tout-petits à la foi. Donc dans chaque chapitre, il va y avoir un extrait d'évangile et des petites activités à faire avec les enfants. Donc soit un mime, retenir quelques mots, écrire une prière, et en fait après tout simplement de dire, faire dire à l'enfant ce à quoi il est le plus attaché, donc, c'est-à-dire à la personne de son doudou, et quel doudou il peut offrir à Jésus chaque jour. Je vous donne quelques lignes de présentation de l'ouvrage. Ce livre fait écho à une expérience pastorale originale menée conjointement par l'auteur, donc le père Jean-Paul Cazes, et un groupe de mamans de deux paroisses, donc en région parisienne. Leur préoccupation commune était « Comment donner à des enfants de 3 à 7 ans le goût de Jésus ?» Chaque mois, quelques mamans se retrouvaient pour lire les textes bibliques du dimanche suivant et soumettre des propositions d'animation pour que les petits découvrent Jésus avec leurs gestes, leurs mots, leurs jeux, leur propre langage. Ce livre rapporte fidèlement les trouvailles qui ont fleuri au gré de cet exemplaire, coopération donc de prêtres laïcs, mus par l'objectif d'éveiller de jeunes enfants au message merveilleux de l'Évangile. L'objectif de cet ouvrage est de semer ailleurs les graines d'une pastorale inventive qui cherche à honorer et respecter l'esprit d'enfance. Le titre, de toute façon, parle de lui-même. L'idée forte de cette expérience du père Jean-Paul Cazes la résume ainsi. L'éveil à la foi n'est pas un catéchisme, ni même un pré-catéchisme, mais un éveil. Il convient d'éveiller les enfants à ce qu'ils approfondiront plus tard au catéchisme. Le temps de l'éveil à la foi est un temps merveilleux pour donner le goût de Jésus et laisser dire à un enfant « Je veux donner mon doudou à Jésus ». Donc c'est-à-dire déjà que chaque enfant apprenne à remettre à Jésus ce qu'il peut avoir de plus précieux et de plus cher. Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, vous pouvez donc le commander aux éditions Salvator, donc « Donner mon doudou à Jésus » du père Jean-Paul Cazes. Deuxième ouvrage, nous sommes en pleine thématique de la rentrée, donc le livre de Cécile Dahl, « Réussir à l'école, astuces d'instit pour aider votre enfant ». Présentation de l'ouvrage. La première période du confinement a mis en exergue l'irremplaçable valeur de l'expérience pédagogique des instituteurs aux yeux de nombreux parents, lequel d'ailleurs ne s'était jamais trouvé désemparé devant le refus obstiné d'un enfant de faire sa page d'écriture, de ses déclarations tranchées sur son désintérêt pour telle ou telle matière. Toute situation créant tension et inquiétude. Forte de sa belle expérience de professeur des écoles, Cécile Dahl se propose dans ce petit livre maniable et pratique de rassurer les parents en leur donnant toute une série de trucs et astuces pour dédramatiser l'apprentissage des matières fondamentales et développer le goût des enfants à leur égard. Par des petites actions, sans pression ou impératif de réussite, le quotidien fourmille d'occasions d'apprendre. Et il est possible de modifier l'approche des devoirs pour aider à surmonter les blocages. Apprendre n'est pas en effet qu'une question d'accumulation de connaissances, mais implique l'acquisition de dispositions d'esprit et d'habitudes de vie qui peuvent être travaillées de façon informelle dans le cadre familial. Il ne s'agira donc pas, dans ce livre, de donner des conseils pour faire de l'école à la maison, mais d'aider à tisser une continuité éducative entre l'école et la maison, dans un réel souci de complémentarité et de compréhension des rôles spécifiques et non interchangeables de chacun, à savoir instituteurs et parents. Donc pour tous les parents qui souhaiteraient avoir des astuces justement pour, on va dire, vivre cette continuité de l'école à la maison. Je vous recommande donc de commander le livre de Cécile Dalle, Réussir à l'école, un livre qui est paru aux éditions MAM. Et on continue toujours aux éditions MAM avec le livre de Elisabeth de Courrèges, intitulé « Être là, une lumière au cœur de la souffrance ». Quelques présentations de l'ouvrage. À travers une série de récits bouleversants, écrits après son confinement dans un EHPAD, Elisabeth de Courrèges partage dans cet ouvrage les rencontres qui ont jalonné son parcours de chrétienne et de soignante. Pour cette ergothérapeute de 26 ans, il s'agit de faire de chaque parole, chaque main serrée et chaque regard une présence du Christ auprès de ceux qui souffrent. Un livre d'une grande profondeur pour aborder la solitude, la souffrance et la fin de vie. Donc Elisabeth de Courrèges, vous l'avez bien compris, est ergothérapeute en maison de retraite et diplômée donc d'un master en éthique médicale. Elisabeth de Courrèges a l'habitude justement de témoigner dans les médias de l'espérance qui l'habite. Nous espérons qu'elle répondra positivement à une de nos demandes. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du mardi 14 septembre 2021. Je vous redonne les titres de l'actualité. J'ai commencé par l'article du père Jean-Baptiste Bienvenu qu'il a donné dans l'Invisible numéro 128 pour passer en mode avion. En cette période de rentrée où nous semble complètement submergés plus que jamais par nos écrans, le père Jean-Baptiste vous a donné de précieux conseils dans son article pour faire en sorte de retrouver le temps, l'espace, les relations et la liberté. Je vous ai parlé ensuite du rôle des grands-parents, donc le rôle qui peuvent leur permettre de compléter l'éducation de leurs enfants. Je vous ai lu donc les conseils de Marc et Marie Von Pierre donc dans L'Homme Nouveau numéro 1742. Les grands-parents doivent tout simplement redécouvrir le propre langage d'amour de leurs enfants et petits-enfants. Culture chrétienne, trois livres. Le premier, Donner mon doudou à Jésus, un éveil à la foi chrétienne du père Jean-Paul Caz, paru aux éditions Salvator. Réussir à l'école de Cécile Dalle, paru aux éditions MAM, et toujours aux éditions MAM, Être là, une lumière au cœur de la souffrance d'Elisabeth de Courrèges.